Le Seigneur passe. Ouvriras-tu quand frappe l'inconnu ? Peux-tu laisser mourir la voix qui réclame ta foi ? Le Seigneur passe. Entendras-tu l'Esprit de Jésus-Christ ? Il creuse en toi la pauvreté pour t'apprendre à prier. Le Seigneur passe. Éteindras-tu l'amour qui purifie ? Vas-tu le fuir et refuser d'être l'or du creuset ? Le Seigneur passe. Oseras-tu lancer ton cri de joie ? Christ est vivant, ressuscité. Qui voudra l'héberger ? Le Seigneur passe. Attendras-tu un autre rendez-vous ? Pourquoi tarder ? Prends avec lui le chemin de la vie. Le Seigneur passe. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus Christ, le Fils du Père, dans la fidélité et l'amour de Dieu. Amen. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour ce temps de culte, à vous qui êtes présents dans ce temple. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois, ou qui reviennent, habitués de ces bancs. Sentez-vous accueillis. Notre pasteur Vincent est actuellement en vacances avec sa famille. Enfin, pas tout à fait, car il a été appelé à aller faire le culte à Aix-les-Bains, parce que le pasteur d'Aix-les-Bains est toujours en congé maladie. Donc voilà, notre pasteur est bien dévoué. Mon épouse Marie-Vonne a concocté la prédication de ce jour. Je me ferai son relais par ma voix, tandis qu'elle accompagnera nos chants à l'orgue et nous réjouira par sa musique. Yvon Serge a veillé aux aspects techniques et matériels de ce culte. Il vous a accueillis en sœurs et frères. Nous chanterons les spontanés que vous trouverez donc en début du recueil, sur le petit feuillet écru, et les deux cantiques qui sont affichés au tableau. Et nous nous levons pour chanter le premier spontané. Laisse-nous entrer, Seigneur.
Laisse-nous, Seigneur, entrer dans ta maison. Laisse-nous venir chez toi. Laisse-nous, Seigneur, partager ta moisson. Laisse-nous chanter avec toi. Louons ensemble, alléluia. Louons ensemble, alléluia.
Louons Dieu avec les mots de Jean-Robert Gnegy. J'aimerais avoir des mots nouveaux, Seigneur, pour parler de toi aux petits de mes frères. Pour rompre la spirale des discours qui ronronnent, cesser le chapelet des formules qu'on répète. J'aimerais avoir des mots nouveaux, Seigneur, pour louer ton amour incarné en Jésus-Christ. Ô Seigneur, Dieu du Verbe qui s'est fait chair. Et j'aimerais avoir des sonorités inédites, Seigneur, pour faire chanter ma joie et monter ma louange. J'aimerais avoir, Seigneur, la voix de ces artistes qui expriment leur foi par le chant et la musique. J'aimerais avoir des sonorités inédites, Seigneur, pour dire le mystère de ta résurrection. Ô Seigneur, Dieu des jubilations éternelles. J'aimerais avoir des teintes étonnantes, Seigneur, pour mettre de la couleur sur la tristesse des jours, pour peindre la beauté du ciel et de l'espace, les montagnes bleutées, le soleil qui se couche. J'aimerais avoir des teintes étonnantes, Seigneur, pour mettre de la lumière au portrait d'un enfant. Ô Seigneur, Dieu créateur du ciel et de la terre. Et nous chantons le cantique 3607 à la page 504, Seigneur, en ta victoire.
Seigneur, en ta victoire, tu as détruit la mort.
prendre place. Seigneur, tu es venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Sans toi, nous sommes perdus. Viens nous sauver. Seigneur, tu es venu, non pour appeler les justes, mais les pécheurs. Sans toi, nous sommes accablés par nos fautes. Viens nous sauver. Seigneur, tu es venu, non pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Sans toi, nous ne pouvons vivre dans l'amour qui est la plénitude de la loi. Viens nous sauver. Seigneur, tu es venu apporter le feu sur la terre. Sans toi, le mal resterait triomphant. Que brûle en nous le feu de ton esprit. Viens nous sauver. Et nous restons assis pour chanter le spontané. Pour accueillir une parole qui nous pardonne tel que nous sommes, je vous invite à vous lever, ceux qui le peuvent, bien sûr. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Dieu est plus grand que notre cœur, nous rappelle la première lettre de Jean. Il connaît notre péché, nos faiblesses et nos tentations, nos peurs et nos hésitations, nos blessures et nos souffrances. Jésus-Christ a vécu notre humanité. Il nous a montré un chemin en surmontant la tentation, en combattant la crainte et la peur, en guérissant les blessures et les tourments. En mourant pour nous, le Seigneur nous a délivrés du péché. Et en ressuscitant, il nous a ouverts à une nouvelle vie. Alors, levons-nous pour accueillir sa paix, son pardon, et laissons-nous porter par l'amour libérateur de ce Dieu plus grand que notre cœur. Amen. Amen. Et nous chantons notre reconnaissance.
Ô ma joie et mon espérance, le Seigneur.
Vous pouvez reprendre place. Voici avec cette prière du réformateur Martin Luther comment Dieu veut être servi, sa volonté pour l'aujourd'hui de nos vies. Dieu permet que je demeure ferme dans la foi et que je ne cède pas au doute, non pas parce que ma prière est bonne, mais parce que toi, tu es la vérité. Ô Père, encourage et fortifie par ta sainte parole l'homme faible que je suis. J'ai souvent de la peine à accepter ta volonté pour moi. Donne-moi la force, Père, d'être obéissant pour ne pas succomber à la tristesse. Dieu Tout-Puissant, rappelle-nous toujours que personne ne peut nous faire du mal, sans nuire mille fois plus à tes yeux. Fait que nous soyons ainsi portés à pardonner plutôt qu'à frapper, à prendre en pitié plutôt qu'en haine. Enseigne-nous, ô Père, à ne pas nous confiner en nous-mêmes ou en nos belles entreprises, mais à tout attendre de ton infatigable bonté. que la tristesse de vivre, souvent en désaccord avec ta volonté, ne nous submerge pas, mais plutôt que ta miséricorde s'étende à toute notre vie et la fertilise. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous de rejeter toute haine et tout esprit de discorde pour que nous puissions vivre ensemble comme de vrais enfants de Dieu, disant en parfaite amitié, non pas mon Père, mais notre Père. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter « De ton esprit emplis nos êtres ». Nous prions avant de lire les Écritures. Vous pouvez vous asseoir. Notre Dieu, tu nous as donné rendez-vous dans ta parole. Et nous, nous pensons t'avoir rencontré une fois pour toutes. Comme si toi, tu ne venais pas sans cesse nous parler. Frapper à notre porte, nous inviter. Permets donc que nos rendez-vous secrets ou publics avec ta parole deviennent des rencontres. Donne-nous l'émoi de celui qui aime, qui devine la présence, qui attend, qui espère. Donne-nous la mémoire de celui qui aime, qui retient en son cœur tout ce qui a eu lieu et qui en magnifie la grâce et la gloire. Notre Dieu, donne-nous de vivre la joie imprévue et la répétition régulière de nos rendez-vous avec ta parole. Par Jésus-Christ le Christ, Jésus le Christ, ta parole qui vient à notre rencontre. Amen. Et donc c'est David qui va nous lire les longs textes du jour.
Oui, il y a deux longs textes. Tu es d'accord qu'on mette un bouquet de fleurs sur la table plutôt, ce joli bouquet ?
Tout le monde est là. Texte.
Il y a deux longs textes, effectivement, pour aujourd'hui. D'abord dans l'évangile de Marc, et ensuite dans l'épître de Jacques. Commençons par l'épître de Jacques, au chapitre 1, versets 17 à 27. Tout don excellent et tout cadeau parfait descendent du ciel. Ils viennent de Dieu, le Créateur des lumières célestes. Et Dieu ne change pas. Il ne produit pas d'ombre par des variations de position. Il a voulu lui-même nous donner la vie par sa parole, qui est la vérité, afin que nous soyons au premier rang de toutes ces créatures. Rappelez-vous bien ceci, mes chers frères, chacun doit être prompt à écouter, mais lent à se mettre en colère. Car un homme en colère n'accomplit pas ce qui est juste aux yeux de Dieu. C'est pourquoi rejetez tout ce qui salit et tous les excès dus à la méchanceté. Accueillez avec humilité la parole que Dieu plante dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Ne vous faites pas des illusions sur vous-même en vous contentant d'écouter la parole de Dieu. Mettez-la réellement en pratique. Car celui qui écoute la parole sans la mettre en pratique ressemble à un homme qui se regarde dans un miroir et se voit tel qu'il est. Après s'être regardé, il s'en va et oublie aussitôt comment il est. En revanche, il y a celui qui examine attentivement la loi parfaite, qui nous procure la liberté et s'y attache fidèlement. Il ne se contente pas de l'écouter pour l'oublier ensuite, mais ils la mettent en pratique, eh bien celui-là sera béni dans tout ce qu'il fait. Si quelqu'un croit être religieux et ne sait pas maîtriser sa langue, il se trompe lui-même, sa religion ne vaut rien. Voici ce que Dieu le Père considère comme la religion pure et authentique. Prendre soin des orphelins et des veuves dans leur détresse et se garder de toute tâche due à l'influence de ce monde. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 7, les versets 1 à 23. L'enseignement transmis par les ancêtres. Les pharisiens et quelques maîtres de la loi venus de Jérusalem s'assemblèrent autour de Jésus. Ils remarquèrent que certains de ses disciples prenaient leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire sans les avoir lavées selon la coutume. En effet, les pharisiens et tous les autres juifs respectent les règles transmises par leurs ancêtres. Ils ne mangent pas sans s'être lavé les mains avec soin. Et quand ils reviennent du marché, ils ne mangent pas avant de s'être purifiés. Ils respectent beaucoup d'autres règles traditionnelles, telles que la bonne manière de laver les coupes, les pots, les marmites de cuivre et les lits. Les pharisiens et les maîtres de la loi demandèrent donc à Jésus, « Mais pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas les règles transmises par nos ancêtres, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures ?» Jésus leur répondit, Ésaïe avait bien raison lorsqu'il prophétisait à votre sujet. Vous êtes des hypocrites, ainsi qu'il l'écrivait. Ce peuple, dit Dieu, m'honore en parole, mais de cœur il est loin de moi. Le culte que ces gens me rendent est sans valeur, car les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des prescriptions humaines. Vous laissez de côté les commandements de Dieu, dit Jésus, pour respecter les règles transmises par les hommes. Puis il ajouta, vous savez fort bien rejeter le commandement de Dieu pour vous en tenir à votre propre tradition. Moïse a dit en effet, respecte ton père et ta mère, et aussi celui qui maudit son père ou sa mère doit être mis à mort. Mais vous, vous enseignez que si un homme déclare à son père ou à sa mère, ce que je pourrais te donner pour t'aider est corban, c'est-à-dire offrande réservée à Dieu, il n'a plus besoin de rien faire pour son père ou sa mère, et ça vous le lui permettez. De cette façon, vous annulez l'exigence de la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Puis Jésus appela de nouveau la foule et dit « Écoutez-moi, vous tous, et comprenez ceci. Rien de ce qui entre du dehors en l'homme ne peut le rendre impur, mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur. Écoutez bien si vous avez des oreilles pour entendre. » Quand Jésus eut quitté la foule et fut rentré à la maison, ses disciples lui demandèrent le sens de cette image. Et il leur dit « Êtes-vous donc, vous aussi, sans intelligence ? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui entre du dehors en l'homme ne peut le rendre impur ? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, et ce qui sort ensuite de son corps. Par ces paroles, Jésus déclarait donc que tous les aliments peuvent être mangés. Et il dit encore, c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur, car c'est du dedans, du cœur de l'homme, que viennent les mauvaises pensées qui le poussent à vivre dans l'immoralité, à voler, à tuer, à commettre l'adultère, à vouloir ce qui est aux autres, agir méchamment, tromper, vivre dans le désordre, être jaloux, dire du mal des autres, être orgueilleux et insensé. Toutes ces mauvaises choses sortent du dedans de l'homme et le rendent impur.
Je vous invite à vous lever pour chanter le spontané des lectures.
Souffle du Dieu vivant, l'Esprit fait un corps. Souffle du Dieu vivant, l'Esprit fait un corps. En joue de Pentecôte, enflammant les apôtres.
Vous pouvez reprendre place. Ah, ces pharisiens, souvent présents dans les évangiles pour porter la discussion, questionner Jésus, parfois essayer de le piéger quant à son interprétation de la loi. Et ce qui nous plaît, c'est que le débat tourne toujours à l'avantage de Jésus. non pas dans une logique de gagnant-perdant, les pharisiens ne sortent pas perdants de ces débats, mais Jésus leur apporte un nouveau regard, une nouvelle manière d'aborder les sujets. Le terme « pharisien » provient du mot hébreu « perushim », qui signifie « ceux qui sont séparés ». Ce nom reflète leur attachement à la pureté religieuse et leur effort pour rester distinct de ceux qui n'observaient pas la loi juive avec la même rigueur. Les pharisiens étaient connus pour leur respect strict de la Torah et des traditions orales qui l'accompagnaient. Ils pensaient que le maintien d'une séparation d'avec les impuretés tant physiques que spirituelles était essentiel pour mener une vie agréable à Dieu. Cette séparation ne consistait pas seulement à suivre les lois alimentaires ou la pureté rituelle, mais incluait également une conduite morale et éthique. Les pharisiens croyaient qu'à côté de la Torah écrite, Dieu avait donné une Torah orale à Moïse, qui comprenait des interprétations et des applications des lois écrites. Cette approche dynamique se traduisait par des décisions halakhiques, c'est-à-dire juridiques, détaillées, couvrant tous les aspects de la vie, y compris la pureté rituelle, l'observance du sabbat, les lois alimentaires et la justice sociale. Ces décisions évoluaient en fonction de nouveaux contextes sociétaux et permettaient ainsi des applications nuancées et pratiques de la loi. Les débats retranscrits dans la Bible entre Jésus et les pharisiens ne portent jamais sur des questions de fond. L'identité du Messie, le monde à venir, l'avènement du royaume. Les points sur lesquels ils s'affrontent concernent les applications concrètes qui découlent de l'observance de la Torah. Le respect du sabbat, les règles de pureté, le jeûne, le prélèvement de la dîme, le divorce, le tribut à César, etc. Jésus a fréquemment critiqué les pharisiens, non pas en raison de leur attachement à la loi, mais à cause de leur hypocrisie, de leur légalisme à deux vitesses et du manque de compassion authentique. La véhémence avec laquelle Jésus discute avec les pharisiens, par exemple dans Matthieu 23, au chapitre 23, le verset 27, où il les compare à des tombeaux blanchis à la chaux, beaux à l'extérieur, mais pleins d'ossements morts à l'intérieur. Cela relève du registre prophétique et c'est motivé par son désir de leur éviter que les scrupules sur le détail ne leur fassent oublier l'essentiel. Certes, ne négligeons pas le détail, dit en substance Jésus, mais ne perdez pas de vue l'esprit de ce commandement. Il les invite souvent à revenir à la morale des prophètes qu'il cite abondamment, notamment Ésaïe, et c'est encore le cas dans le texte lu aujourd'hui. Ce jour-là, en Galilée, loin de Jérusalem, les disciples de Jésus mangeaient avec des mains impures. Ils n'avaient pas observé le rituel de purification avant d'entamer leur repas. Belle occasion pour certains pharisiens et scribes de chercher querelle à Jésus. Le reproche que font les pharisiens et scribes aux disciples de Jésus est de prendre leur repas avec des mains ordinaires ou communes. C'est le sens exact de l'adjectif employé dans le texte grec et qu'on traduit régulièrement par « impur ». Derrière la question des mains impures ne se cache pas une question d'hygiène, mais bien une question de sacré. Le profane, c'est l'ordinaire, le commun, le banal. Le sacré, c'est ce qui a été offert à Dieu et c'est ce que l'usage appelle « pur ». Ce qui choque, ces hommes religieux, c'est que le rituel n'ait pas été accompli. Rituel qui transforme des objets ordinaires en objets consacrés à Dieu. Certains gestes, certaines pratiques sont dits plaire à Dieu. Il peut s'agir du sacrifice d'un animal, mais cela concerne aussi la façon de se laver, de laver la vaisselle, de cuisiner, de s'habiller. Respecter minutieusement, certains diraient maniaquement, la pratique rituelle est considérée comme un don fait à Dieu, comme une offrande. Cela est korban, cela est sacré. Pourquoi tes disciples ne se conduisent-ils pas conformément à la tradition des anciens ? À cette question, Jésus ne répond pas par une question comme à son habitude, mais cite le prophète Ésaïe. En effet, en Israël, depuis longtemps, les prophètes avaient dénoncé le ritualisme formel des obligations rituelles et insisté sur la signification qu'il fallait attribuer aux gestes. Jésus s'inscrit dans cette lignée. Réciter des formules sans les comprendre, accomplir des gestes sans chercher leur sens, c'est rendre un culte vain. C'est une piété apparente et non réelle. Et Jésus va encore plus loin que cette critique du faux semblant. Il choisit un exemple qui n'est pas anodin pour illustrer la distance qui existe entre la piété de cœur et la piété formelle. C'est celui du cinquième commandement. La législation mosaïque reconnaissait la valeur du vœu par lequel on consacrait à Dieu des biens ou des personnes. Les biens ainsi voués devenaient korban. Mais les pharisiens toléraient l'abus consistant à vouer à Dieu les biens par lesquels un fils aurait dû subvenir aux besoins de ses parents, ce qui permettait de tourner le précepte du décalogue « Honore ton père et ta mère ». Un certain nombre de documents attestent la banalité de cet usage à l'époque de Jésus. Cet usage revenait à donner la priorité absolue au sacré, à préférer le sacré aux humains dans le besoin. Non seulement le ritualisme est hypocrite, mais, et c'est plus grave encore, il substitue au commandement divin une tradition humaine. Il substitue au service de Dieu et du prochain le service de l'intérêt personnel. Cet exemple du dévoiement du cinquième commandement rejoint l'épisode où les disciples sont fustigés pour avoir cueilli du blé lors d'un sabbat. Et cet autre épisode où Jésus guérit un homme un jour de sabbat encore. La leçon est toujours la même. La vraie fidélité à Dieu et à son commandement est d'aimer et donc d'aider son prochain. On ne peut aimer Dieu qu'en venant en aide à ce prochain dans le besoin. La question pharisienne de la purification des mains conduit Jésus à la même conclusion. Entre l'être humain et le sacré, Jésus choisit l'humain. Comme l'écrit Sylvie Keval, animatrice du Cercle évangélique et Liberté de l'Aude, et dont cette prédication est fortement inspirée, les hommes inventent du sacré. Ils y emprisonnent leur piété et finalement, à trop vouloir avoir les mains pures, on se coupe les mains. Après avoir une nouvelle fois mis les pharisiens en face de leurs contradictions, c'est vers la foule et ses amis que Jésus se tourne pour expliquer pourquoi le rituel importe peu. Pourquoi on peut manger avec des mains ordinaires. Avec la foule, Jésus délivre ce message. Il n'y a rien d'extérieur à une personne qui puisse le rendre impur en pénétrant en lui. Mais ce qui sort d'une personne, voilà ce qui le rend impur. C'est au verset 15. Autrement dit, la pureté de ce qui est sacré n'est pas à chercher au dehors, dans des formes extérieures, des gestes visibles. Elle est une affaire d'intériorité. Puis, c'est aux disciples qu'il explicite cette affirmation. La pureté véritable n'est pas une affaire de rite, mais de cœur. Aucun rite ne purifiera jamais quiconque, et l'oubli des rites n'a jamais souillé quiconque. Les rites ne sont que des masques, comme ceux que portaient les acteurs de théâtre à l'époque, et acteurs se dit en grec hypocrite. L'accomplissement scrupuleux du rite sans travail intérieur n'est qu'une caricature. La bonne nouvelle de Jésus, c'est que toutes ces gesticulations sont vaines. Mangez ce que vous voulez, habillez-vous comme vous voulez, cuisinez comme vous voulez. Dieu n'a que faire de tout cela. Rien d'extérieur n'est sacré. Les objets, les bâtiments, les lieux sont neutres, ordinaires, communs, et aucun rituel ne peut rien y changer. Mais il ne suffit pas de désacraliser, il faut aussi resacraliser. Ce qui est impur n'est jamais au dehors, mais vient du dedans. Le seul vrai temple, au sens de lieu sacré, est notre cœur, selon Jésus. C'est lui que nous devons préserver de la profanation et de l'auto-profanation. Jésus nous délie des freins rituels, nous apporte la liberté dans notre quotidien et nous responsabilise dans nos choix de vie. Nous sommes responsables de nos actes et de nos paroles, mais sur nos chemins de vie, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Que ta lumière éclaire nos vies à ton service et au service de notre prochain, quel que soit le contenu de notre assiette. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter le cantique 31-28 à la page 339, « Toi qui es lumière ». On chante en entier, je pense. pouvez reprendre place. Je vous invite à confesser notre foi avec les paroles de Georges Cobby. Je voudrais que ce soit simple de croire en toi, Dieu, que cela coule de source. Si au moins tu pouvais apparaître d'une pression sur ma télécommande ou me répondre par un de nos satellites. Je voudrais que ce soit simple de croire en toi, Dieu. Mais tu es décidément impossible à imaginer. Et personne ne peut te décrire. Tu es plus grand que l'univers, puisque c'est toi qui l'as créé. Tu es plus petit que la plus petite parcelle de matière, puisque c'est toi qui l'as créé. Et tu me connais mieux que je ne me connais moi-même, car moi aussi, tu m'as créé. Dieu mystérieux, toujours au-delà de ce que nous pouvons imaginer, je voudrais que ce soit simple de croire en toi. Que ça tombe du ciel. Un seul peut m'aider à te comprendre. Jésus de Nazareth, mort au printemps sur une croix, est revenu à la vie à Pâques. Dieu mystérieux, aide-moi à connaître ce Jésus et je te connaîtrai un peu mieux. Amen. Et nous nous levons pour chanter.
Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi.
Voici le moment de l'offrande. Notre Église ne vit que grâce à nos dons. Rappelons-nous la parole de Paul, que celui qui donne le fasse avec générosité. Ô Christ, qui t'es donné toi-même pour nous, afin de nous racheter de tout mal et de faire de nous un peuple qui t'appartienne en propre, accueille avec bonté cette offrande comme l'humble témoignage de notre amour. Amen. Alors voici le temps des annonces. Alors, tout d'abord, un grand merci à Marie-Yvonne, plusieurs grands merci, parce qu'elle elle m'a permis de lire sa prédication. Il y avait quelques petits pièges, mais j'y suis les déjouer, c'est bon. Et elle l'a rédigé, enfin, je trouve que ça éclaire bien la parole, même si elle s'est fait aider par pas mal de textes, mais elle a beaucoup, beaucoup lu. Merci aussi à toi, donc Marie-Yvonne, toujours, c'est pour l'accompagnement musical. Et c'était pas simple parce qu'il y avait aussi un auditeur très attentif avec une oreille très exercée, c'est notre fils Clémentin. Donc ça, voilà, je pense que je. Alors, et puis merci à Yvon Serge pour avoir permis que chacun se sente accueilli dans ce temple comme dans sa maison. Merci à Barbara qui a fleuri notre temple. Et puis un merci à tous pour votre présence. Et en particulier, je voulais signaler le retour d'Alain Roy parmi nous. Voilà, ça fait plaisir. Et il ne faudra pas que vous oubliez. Alors, il y aura la chorale mardi à 19h15, le groupe de prière mercredi à 18h au temple. Et il faudra que vous récupériez votre exemplaire de nouvelles à la sortie. Vous allez voir Monique ou je ne sais pas qui est-ce qui distribue. Alors, il y a Pierre, puis après, je te donnerai la parole. Donc, il y a Pierre qui avait quelque chose à nous faire partager, plusieurs choses. Notre président de notre présidence.
Bonjour à chacun. Simplement, on a dit il y a quelques mois que ce temps, c'est un temps d'échange de nouvelles également. Donc, j'ai eu des nouvelles de Daniel et Gérard, qui, pour dire qu'ils étaient toujours en vacances et qui vous transmettre leurs salutations, et puis des nouvelles de Jean-Marc Pelcé. Donc ça fait quelques mois qu'on ne le voit plus dans nos bancs parce qu'il avait fait une chute et il m'a dit qu'il allait mieux et qu'il avait retrouvé l'usage de son répondeur. Du coup, il a pu lire ses messages et qu'il espère venir nous rejoindre au mois de septembre. Voilà.
Merci.
Ah, si, pardon. Oui, excusez-moi. Souvent, on profite de l'été pour faire des petits chantiers. Donc, je propose de faire un chantier vitre, des vitres du haut, de la salle du haut, mardi après-midi, donc après mon travail, donc à partir de 4 heures. Voilà, donc s'il y en a qui ont l'âme de nettoyeur de vitres, n'hésitez pas à nous rejoindre.
Puis Norbert, vous voulez ajouter quelque chose.
Bonjour à chacune et à chacun, à celle que je n'ai pas eu l'occasion de saluer. Je me permets de prendre la parole exceptionnellement parce que je voudrais saluer trois faits. Il y en a d'autres. Je voudrais exposer trois clins de cœur. Il y en aurait d'autres. Je m'en tiens à ces trois-là parce que je me suis entretenu, comme je le fais souvent avant le culte, avec ces personnes-là. D'abord, Christophe l'a dit, on est vraiment très très heureux de retrouver notre ami Alain, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Merci beaucoup à David et à Christine qui l'ont véhiculé. C'est vraiment une grande joie. Trois clins de cœur marqués par la joie. La deuxième, je ne vais pas regarder les personnes pour ne pas les gêner, mais il y a un couple ici qui a choisi de venir, qui ne fait pas partie de notre église, mais qui a choisi de venir partager le culte avec nous, alors que ce couple célèbre un moment très très important, un anniversaire très important pour leur couple. Donc merci à eux. Et puis Christophe a employé un verbe tout à l'heure extrêmement intéressant, ceux qui viennent et ceux qui reviennent. Et il y a deux personnes qui sont revenues aujourd'hui, notamment parce qu'elles étaient venues la semaine dernière et qu'elles avaient été très émues par le culte qui avait été préparé par notre ami David, qui est comme Marie-Yvonne, prédicateur laïque. C'est extrêmement intéressant parce que je trouve qu'on ne, nous, à l'intérieur de l'Église, peut-être qu'on ne sait pas toujours, pas suffisamment remercier les prédicateurs laïcs. On en a beaucoup et ils préparent. C'est extrêmement difficile de préparer un culte et ils le font avec beaucoup d'amour, beaucoup d'intelligence. C'est toujours très profond, très juste. Donc merci à eux.
Merci Norbert. Moi, je suis que le lecteur. Je précise. Chacun ses talents. Alors, je vous invite à nous unir à la prière. Ô Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Père, nous te rendons grâce pour ce privilège que tu nous as accordé de recevoir ta parole. Ses appels et ses consolations, ses blessures et ses guérisons nous font vivre de ton amour. Conduis notre soif de vie vers ton royaume et ta justice. Et pour cette mission, purifie-nous, inspire-nous, fortifie-nous. Accorde les mêmes grâces à ceux qui nous sont chers, nos bien-aimés, que nous te nommons dans le secret de nos cœurs. Soutiens les malheureux, illumine et réconforte ceux qui fléchissent. Nous te prions pour ceux qui t'aiment et trouvent leur joie dans ton amour, pour ceux qui te cherchent et qui espèrent en toi, pour ceux qui t'ignorent ou te méconnaissent et que ton amour attend. Et unis dans une même foi en toi, dans la même consécration à ton service, dans la communion de l'Église universelle, nos cœurs élèvent vers toi la prière que le Christ nous a confiée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Ça fait plaisir de réciter cette, enfin de dire cette prière ensemble. Nous étions à une... Enfin, Marion a fait une cérémonie funèbre mercredi et dans l'église de Chavanneau, l'église était pleine. C'était très émouvant comme moment. Mais au moment de la prière universelle, nous étions très peu à pouvoir lire le Notre Père. C'était un petit peu troublant. Alors, je reprends. C'est un peu l'horoscope. Si vous êtes né entre le 1er janvier et le 31 décembre, alors vous êtes né sous le signe de la grâce de Dieu. Vie quotidienne. C'est vrai que tout a l'air compliqué, mais ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain. Amour. Rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Voyage. Soyez ambitieux et confiant. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Météo. Vous connaîtrez cette année des tempêtes intérieures et des moments de dépression. La pluie, comme la sécheresse, seront certainement au rendez-vous. Mais si vous construisez votre maison, votre vie, vos projets sur le roc, alors votre maison ne s'écroulera pas. Santé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Argent. Ah oui, ça me concerne un peu. L'agence de notation, ça me concernait. J'étais trésorier de cette église pendant longtemps. Alors, l'agence de notation divine vous maintient son triple A. Pas mal. Malgré toutes vos angoisses, car Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse par Jésus-Christ. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous et avec ceux que vous aimez, dès maintenant et pour l'éternité. Amen. Et nous chantons le dernier spontané.
Tu nous appelles à t'aimer en aimant le monde où tu nous envoies. Ô Dieu fidèle, donne-nous en aimant le monde de n'aimer que toi. Soyez signe d'amour, de paix et de tendresse. Ayez un cœur d'enfant, soyez simples et vrais. Tu nous appelles à t'aimer en aimant le monde où tu nous envoies. Ô Dieu fidèle, donne-nous en aimant le monde de n'aimer que toi.
Bon dimanche à tous.
Merci.